première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes le 24 juin 1717 dans une taverne de la capitale anglaise. C'est le jour de la Saint-Jean. On va pousser la porte d'un établissement à l'enseigne The Goose and Gridirons, qui veut dire l'oie et le grill en français. C'est là que quatre confréries se sont réunies pour former la première grande loge, la Grande Loge de Londres et de Westminster. Et c'est à partir de là que la franc-maçonnerie va se répandre dans toute l'Europe, puis progressivement dans l'ensemble des colonies européennes, en Amérique, puis en Australie, en Afrique et en Asie. En trois siècles, les idées transgressives des maçons vont accompagner, parfois devancer, les plus grands bouleversements sociétaux. Les attaques seront rudes, les soutiens parfois inattendus. C'est cette longue route que nous allons parcourir jusqu'à la fin du 19e siècle. On remonte donc aux origines de la franc-maçonnerie.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Avant d'ouvrir les travaux, invoquons la protection du grand architecte de l'univers sur toutes nos entreprises. Puissent nos travaux ouverts ainsi dans l'ordre se continuer dans la paix et se terminer dans l'harmonie. Ainsi soit-il.
Les francs-maçons à visage découvert, c'est un documentaire pour l'émission Les Dossiers de l'écran, c'était sur Antenne 2 à l'époque. Pour évoquer les origines de la franc-maçonnerie, Hervé Asquin est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Historien, chercheur, docteur en philosophie et lettres, je rappelle que vous avez été recteur de l'ULB, Hervé Asquin, sénateur, député, ministre, aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, initié en maçonnerie en 1970, et je signale également la parution chez CEP Éditions, les édition du CEP, trois siècles de franc-maçonnerie et après, ce sont des entretiens avec notre collègue Eddy Kakelbergs. Alors, on situe la date anniversaire de la création de la franc-maçonnerie le 24 juin 1717, donc quatre loges se réunissent, mais ces loges, elles viennent d'où ?
Mais ça reste en partie mystérieux, évidemment. Alors, si on se penche sur une maçonnerie embryonnaire, mais on trouve des traces déjà, évidemment, à la fin du XVIe siècle, notamment en Écosse, il y a des curiosités intellectuelles. Et puis, je rappelle que depuis le XVIIe siècle, l'Écosse et l'Angleterre ne sont pas encore unies, mais elles ont un même roi qui appartient à la famille Stuart. Donc, il y a nécessairement des relations intellectuelles, les gens voyagent. Et c'est ainsi que, progressivement, sans doute, un certain nombre d'idéaux qui se dégagent déjà du côté de l'Écosse pénètrent en Angleterre et prennent racine surtout dans une société importante qui fascine encore aujourd'hui avec le recul. C'est la Royal Society de Londres. C'est la grande académie, n'est-ce pas ? Qui est créée vers 1660-1661, académie dans laquelle on rencontrera les plus grands intellectuels et savants anglais, notamment dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et quand on parle savant, on pense tout de suite à quelqu'un comme Newton, ouais. Bien sûr. Mais vous avez aussi John Locke, le philosophe. Mais vous avez aussi, c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la Royal Society, des entrepreneurs... Des nobles, des physiciens, des médecins, des mathématiciens, des philosophes. Donc, c'est quelque chose de très interdisciplinaire, où finalement, on s'interdit de parler religion. On évite les querelles des anges, n'est-ce pas ? Voilà. Et il y a une préoccupation qui est finalement de se pencher sur la recherche du vrai, de faire des découvertes, de passer de la théorie à la pratique. C'est extrêmement important, c'est nouveau, et c'est l'Angleterre qui invente ça, dans le courant du XVIIe siècle. Et en passant de la théorie à la pratique, voir comment faire profiter ces découvertes scientifiques à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, avec un souci qui est le bien-être de la population. Mm. Voilà, ça c'est, ce sont des esprits donc extrêmement libres, mais j'ajouterai un détail qui explique peut-être certaines choses ouais. avec la maçonnerie. Vous avez là donc des gens férus de savoir, de grands intellectuels, rappelons tout de même... Newton va fasciner l'histoire entière. Ça reste un des plus grands esprits avec la loi de la gravitation et bien d'autres choses. Mais Newton va consacrer les 20 dernières années de sa vie à l'alchimie. Donc ce sont à la fois des gens qui sont très scientifiques, mais qui sont passionnés par l'hermétisme, par l'alchimie et disons-le par l'irrationnel. Et donc, vous avez cette cohabitation, en quelque sorte, au sein de la Royal Society. Alors, Newton n'a pas été franc-maçon, mais nombre de ceux qui l'entouraient, et certains de ses élèves, furent évidemment des gens particulièrement éminents qui jouèrent un rôle décisif dans cette naissance de 1717.
Alors, la franc-maçonnerie fascine, intrigue. Il y a ce rapport religieux, il y a un texte qui est très très important, la constitution d'Anderson, qui est rédigée en 1721 dans sa première version, par un pasteur presbytérien écossais, James Anderson, en collaboration avec un physicien protestant d'origine française, Théophile Desaguliers. Alors, l'article premier capital, il dit... Pour être maçon, il faut être ni athée stupide, ni libertin irreligieux. Alors ça a provoqué beaucoup de confusion, de malentendus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Mais ça veut dire que, globalement, on est croyant. Mais la différence essentielle, qui est déterminante pour véritablement faire en sorte que la maçonnerie soit quelque chose de très différent de la société du temps. C'est, oui, il faut croire en Dieu, mais ce n'est pas le Dieu d'une religion particulière. C'est ce qu'on va appeler le grand architecte, c'est le premier moteur, la puissance créatrice, tout ce que vous voulez, mais qui transcende les religions particulières. Ce qui veut donc dire que en un temps, à une époque, où finalement, dans chaque pays, vous avez une religion d'État. On a oublié cela. C'est que si le souverain était catholique, les sujets se devaient d'être catholiques. Le souverain était anglican, il se devait d'être anglican. Le souverain était calviniste ou luthérien, idem en ce qui concerne les sujets. Donc, vous avez là une rigidité dans l'organisation de la société, où en même temps, les lois des églises sont les lois des États. Et donc, ce qui frappe dans cette organisation maçonnique, où on invoque un dieu qui n'est pas nécessairement le dieu des catholiques. Dans les pays catholiques, on y verra le dieu des catholiques. Mmh. Mais il y aura de la place pour les protestants et pour d'autres. C'est une des grandes caractéristiques. Donc, c'est véritablement novateur. On voit là la source d'une nouvelle forme de sociabilité qui naît dans une Angleterre. Il faut le rappeler parce qu'on a eu tendance à oublier ça, notamment dans les pays francophones et la Belgique. Vous savez combien nous sommes influencés par la France. Mmh. La grande puissance à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est l'Angleterre. C'est le pays, bien sûr, de la révolution industrielle. C'est le pays de la révolution agricole. Mais c'est aussi le pays de la révolution démocratique. Entendons-nous ? Il faut pouvoir relativiser les choses, les resituer dans un contexte. Ce n'est pas nécessairement la démocratie, bien sûr, au sens qui est le nôtre aujourd'hui, mais c'est le parlementarisme, c'est l'obligation pour le souverain, avant de pouvoir régner, de prêter serment devant les assemblées réunies, de s'engager véritablement à respecter les lois fondamentales du royaume. Donc, on ne devient roi que s'il y a un consensus populaire qui s'exprime au travers de la Chambre des communes et de la Chambre des lords. La monarchie de droit divin disparaît.
Il faut rappeler que c'est les Anglais qui décapitent, enfin qui tuent leur roi en 1649.
Avec 140 ans d'avance sur la France. Alors je ne dis pas que c'est un geste glorieux, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas.
Mais c'est un geste fort, évidemment.
Mais c'est un geste très fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Un geste capital, n'est-ce pas, qui s'opère au milieu du XVIIe siècle. Et donc vous avez là, à la fin du XVIIe siècle, avec le Bill of Rights, la Déclaration des droits, par exemple, le souverain ne peut plus s'en prendre à la presse. c'est la liberté totale de la presse. Il n'y a plus d'armée permanente en Angleterre. Rappelez-vous, l'Angleterre en souffrira encore en 1939-40, au moment où la guerre à l'égard des nazis éclatera. L'Angleterre va devoir véritablement repenser tout son système de mobilisation, de conscription. Ça date de la fin du XVIIe siècle, parce qu'on ne veut pas que le roi, finalement, soit le maître d'une armée qui puisse imposer son pouvoir. Chose dont on débat souvent en Belgique, encore aujourd'hui, la liste civile. C'est-à-dire que, dans tous les autres États, à commencer par la France jusqu'à la Révolution française, la cassette du roi se confond avec le budget de l'État. En Angleterre, dès les années vers 1690, ben c'est différent. On attribue au roi une liste civile qui répond à ses besoins financiers pour lui permettre d'exercer, j'allais dire, ses compétences et ses fonctions. Mais pour le reste, il y a un budget de l'État totalement indépendant qui est voté annuellement par le Parlement. Voyez-vous, la notion de budget est d'ailleurs une invention du Parlement anglais de la fin du XVIIe siècle. Ça n'existait nulle part ailleurs. Donc, je reviens à mon propos initial. L'Angleterre fascine. C'est quelque chose d'à part et qui va développer une anglophilie extraordinaire, notamment sur le continent et chez les Français. Montesquieu, Voltaire et quelques autres. Montesquieu sera initié franc-maçon, d'ailleurs, relativement jeune. Donc, l'Angleterre est un signal intellectuel, un signal lumineux, en quelque sorte, que l'on aime vanter et qui permet de distinguer l'Angleterre du reste du monde.
Et pourquoi donc l'Angleterre est le terreau de ces idées nouvelles qui vont se développer et infuser ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde? Vous l'avez dit, nous sommes avec Hervé Asquin.
Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple?
C'est un profane qui demande à être interrogé, vénérable maître.
Faites entrer le profane. Vous avez déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie, mais nous désirons savoir qui vous êtes. Nous allons donc vous interroger sur vos sentiments, vos croyances, vos idées politiques. Répondez-nous sans vous troubler, mais en nous disant la plus stricte vérité. Consentez-vous à cet interrogatoire?
J'y consens.
Un jour dans l'histoire,
sur la première.
C'est un film qui s'appelle Forces occultes, qui a été réalisé en 1943 par deux ex-frères, Jean Marques Rivière et Jean Mamie, sous un pseudonyme, Paul Riche. Alors, Hervé Asquin, vous évoquiez ces nouvelles idées qui favorisent une autre sociabilité des idées de la franc-maçonnerie, notamment en matière religieuse, en matière d'égalité sociale aussi, en principe. Tout le monde peut rejoindre les francs-maçons.
Tout le monde peut rejoindre les francs-maçons. Et si au départ, la maçonnerie telle qu'elle se développe sur le continent comporte pas mal de gens qui sont nobles ou la haute bourgeoisie, je veux dire, on assiste à une démocratisation sociale, les classes moyennes au sens large du terme, à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est en cela aussi que la maçonnerie, évidemment, attire. Parce qu'elle constitue aussi une rupture par rapport à la société du temps. En loge, on se tutoie. Pendant, en tout cas, le temps, la durée des cérémonies maçonniques, le noble, le bourgeois, celui qui n'est ni l'un ni l'autre, ou le manant, s'il y en a, en loge, sont sur un strict pied d'égalité. C'est évidemment révolutionnaire en soi, n'est-ce pas ?
Mais est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'effectivement le manant va pouvoir, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, côtoyer au sein d'une loge le grand propriétaire terrien ?
En fait, ce que je vais vous dire vaut pour le XVIIIe siècle comme cela vaut pour aujourd'hui. L'entrée en maçonnerie n'a rien à voir avec l'argent, avec la fortune personnelle. Mais en maçonnerie, on a des préoccupations philosophiques. On peut discuter religion, on peut discuter de beaucoup de problèmes de société. Et la différenciation se fait sur l'attrait que l'on peut avoir, l'intérêt que l'on peut marquer pour ces questions-là, ou point. Donc, il est évident qu'il y a d'une certaine façon, peut-être une forme de discrimination qui s'exerce, mais en raison des préoccupations intellectuelles que vous avez. Ce n'est pas un problème d'argent. Vous savez, le frère ou la sœur qui sont en difficulté, ce sont d'autres frères ou la loge qui paye sa cotisation. Soyons clairs, c'est ça le fonctionnement aussi de la maçonnerie. Mais vous pouvez être ingénieur, titré, que sais-je encore, et après toute une série d'interrogatoires, de tests, de parrainages, arriver en loge, assister à des débats philosophiques, à des questionnements, et puis vous dire, est-ce que ça m'intéresse ? Ça m'intéresse peut-être pas. Et il y a ainsi un pourcentage infime, mais vous avez un pourcentage d'hommes et de femmes qui se disent, je me suis trompé, ce n'est pas ma voie, ça ne m'intéresse pas nécessairement, et ils ne viennent plus.
La manière de rentrer en maçonnerie est la même aujourd'hui qu'il y a 300 ans. On est approché.
Dans l'immense majorité des cas, on est approché. On est parrainé. Mm-hmm. Puisque le but de la maçonnerie, c'est d'initier des hommes probes et libres, pour utiliser la formule rituelle. Et j'insiste sur un point. La maçonnerie, c'est pas une secte, c'est pas une église. Il n'y a pas de vérité révélée. Ce que la maçonnerie s'efforce de permettre, c'est à chaque individu de se perfectionner. Pour reprendre une expression très maçonnique, le parcours maçonnique, c'est tailler la pierre brute.
C'est ça, c'est l'art de construire, de bâtir.
De construire.